Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Alors que les combats se poursuivent sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, l'heure des décomptes a sonné depuis le printemps 2014. La guerre a fait 10 000 morts et 1,5 million de personnes déplacées. Elles ont trouvé refuge en Russie, mais pour la plupart, un peu moins d'un million, elles sont restées en Ukraine, hors des zones séparatistes. Une vie, entre parenthèses, dans des conditions très précaires. Sébastien Gobert est allé à leur rencontre.
L'accueil est chaleureux chez Ivan et Tetiana. Le nom d'Ivan est Cherboul. Sa famille serait historiquement originaire de la ville de Cherbourg, en Normandie. Ils se réjouissent donc de recevoir la visite d'un journaliste français. Mais le tour du propriétaire est vite fait. Cela fait 2 ans qu'ils habitent dans une chambre de résidence universitaire de 10 mètres carrés. Ivan et Tetiana avaient une vraie maison, là-bas, à Lugansk. Ils venaient d'y faire des réparations quand la guerre a commencé, au printemps 2014. Lugansk est devenue l'une des capitales des séparatistes pro-russes. Tetiana et Ivan ont fui et se sont réfugiés à 100 km au nord, à Severodonetsk, en territoire ukrainien. Lena Senaya est elle-même originaire de Pervomaïsk, aujourd'hui en territoire séparatiste. Elle coordonne de l'aide aux personnes déplacées au sein du fonds Alexander Romanovsky.
Il a fallu résoudre les problèmes les uns après les autres. Nous étions partis sans rien à l'été 2014. Il a fallu manger, s'habiller, s'occuper des enfants. Et aujourd'hui, le problème principal, c'est le logement.
Lena Senaya explique que beaucoup de personnes ont préféré retourner vivre chez eux en territoire séparatiste, malgré les risques politiques et sécuritaires. Les conditions d'hébergement en territoire ukrainien sont souvent très précaires. Obtenir un travail, c'est possible, mais la reconversion n'est pas toujours évidente pour des anciens mineurs et ouvriers industriels. Vivre comme une personne déplacée en territoire ukrainien est loin d'être un choix, mais cela répond, entre autres, à des considérations très pratiques.
Ceux qui habitent côté ukrainien ont compris que là-bas, il n'y a pas d'avenir. On ne sait rien de la situation politique. Les diplômes des écoles et universités ne sont reconnus nulle part. Ce qui veut dire qu'il faut se réorganiser à partir de rien, sans même être sûr d'avoir un toit sur la tête.
Ici, à Severodonetsk, même les petites chambres de la résidence universitaire ne sont pas garanties.
Il ne reste que 24 personnes déplacées dans la résidence universitaire parce qu'il y a un conflit en quelque sorte. L'université veut faire de la place pour ses étudiants. Elle a reçu une bourse de l'Union européenne pour se développer et rénover quelques bâtiments. Logique, elle veut du coup donner la priorité aux étudiants.
Anna Rudenko est elle de Lugansk. Elle s'est faite porte-parole du groupe de personnes déplacées de cette résidence universitaire. Une de ses priorités est d'assurer un soutien psychologique pour son groupe.
C'est très dur à vivre. Avant, on avait un lieu bien à nous, un certain confort. On est arrivé ici avec 2 valises pour nous retrouver entassés dans de petites chambres d'étudiants. Évidemment, il y a des organisations humanitaires qui sont là pour aider. Mais faire la queue pour récupérer un colis alimentaire, cela ne réjouit personne.
Déborah Nguyen est chargée de communication du Programme alimentaire mondial, le PAM, qui organise des distributions de colis alimentaires.
Alors ces personnes ont épuisé leur épargne, donc ils n'ont pas beaucoup d'argent qui leur reste pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc certaines personnes reçoivent de l'aide de leur famille. Certaines personnes reçoivent une pension de retraite de l'État, mais c'est souvent très insuffisant pour subvenir à leurs besoins.
Le gouvernement à Kiev a récemment fait passer une loi restreignant les conditions d'accès à des aides publiques. Cette loi a permis de limiter certains abus, mais elle précarise encore plus des familles qui comptaient sur le soutien de l'État. Reste donc l'aide humanitaire. Les rations distribuées par le PAM sont suffisantes pour une personne pour un mois. Le PAM n'a pas débloqué les financements promis pour l'Ukraine en 2016. L'objectif était d'aider 280 000 personnes. Le PAM en touchera à peine 100 000. Déborah Nguyen.
Sans l'aide du PAM, ces personnes vont se retrouver dans une situation très difficile parce que ce sont des personnes qui sont déjà très, très vulnérables à la base.
Le conflit hybride du Donbass dure déjà depuis plus de 2 ans et il ne semble pas prêt de se résoudre. Malgré cela, des centaines de milliers de personnes n'ont pas encore trouvé un modus vivendi. Elles sont faiblement soutenues par l'État et vivent dans des conditions toujours précaires. L'inquiétude monte à l'approche de l'hiver.
C'était il y a 20 ans, jour pour jour, et les Turcs n'ont pas oublié ce scandale. Au départ, il s'agissait d'un banal accident de voiture dans la petite ville de Çukurluk. Mais il a mis en lumière la collusion entre les politiques, les mafieux et l'extrême droite. Récit signé Anne Andlauer.
3 novembre 1996, 19h25. Une berline noire roule à vive allure sur la route qui relie la province égéenne de Balıkesir à celle de Bursa sur la mer de Marmara. À hauteur de la petite ville de Çukurluk, la voiture percute un camion qui sortait d'une station-service. 3 des 4 occupants sont tués, le dernier installé à l'avant sur le siège passager survit à ses blessures. Un banal accident de la route, pensent alors les gendarmes. Mais l'identité des victimes, et surtout leur présence ensemble dans cette berline noire bourrée d'armes, de billets et de faux papiers, est un choc pour toute la Turquie. L'accident de Çukurluk devient dès lors le scandale de Çukurluk. Le blessé s'appelle Sedat Edip Bucak. C'est un député du parti de la Juste Voix qui gouverne le pays au sein d'une coalition. Parmi les victimes, il y a le chauffeur Hüseyin Kocada, un chef de police, Abdullah Çatlı, militant d'extrême droite et chef mafieux recherché en Turquie et par Interpol, et sa compagne Gonca Us, un mannequin. Si l'accident de Çukurluk se transforme en affaire d'État, c'est qu'il révèle les liens courants que la police, les foyers d'extrême droite, les milieux mafieux et la classe politique entretiennent pour mener à bien certaines activités occultes, comme l'élimination d'opposants et les crimes extrajudiciaires dans les régions kurdes du Sud-Est. Très relayée dans les médias, l'affaire soulève un tollé dans l'opinion publique. Pendant plusieurs semaines, tous les soirs à 21h, des centaines de milliers d'habitants éteignent pendant une minute les lumières de leur foyer. Il s'agit de la première manifestation d'envergure de la société civile en Turquie. Les participants réclament que lumière soit faite sur ce qu'on commence alors à appeler l'état profond. En réalité, à ce jour, la lumière n'a jamais totalement été faite ni sur l'accident de Çukurluk, ni sur ses collusions entre politiques, criminels, ultranationalistes et forces de sécurité. Le scandale entraînera toutefois la démission de Mehmet Ağar, à l'époque ministre de l'Intérieur et député du parti de la Juste Voix. Longtemps protégé par son immunité parlementaire, il sera condamné en septembre 2011 à 5 ans de prison comme dirigeant d'une organisation criminelle dans le procès de Çukurluk.
Un pays ne se gère pas comme une entreprise. C'est le constat et le cri d'alarme que lance l'opposition tchèque, atterrée par les dérives du président Miloš Zeman. Le chef de l'État irrite par ses sorties politiquement incorrectes depuis son élection en 2013. Mais à l'approche du prochain scrutin en 2018, l'opposition se réveille et dénonce une politique étrangère trop tournée vers Moscou et Pékin et pas assez vers Bruxelles. À Prague, Alexis Rosenzweig a assisté à l'une de leurs manifestations.
L'hymne tchèque entonné par la foule, c'était vendredi dernier à l'occasion de la fête nationale. Environ 15 000 personnes sur la place de la vieille ville réunies pour marquer leur opposition au chef de l'État, Miloš Zeman. Et dans ce pays où on a peu l'habitude de se mobiliser dans la rue, le rassemblement surprend par sa relative ampleur. « Nous sommes une démocratie occidentale », affirme une pancarte tenue à bout de bras par un étudiant.
« Česká republika se nesmí stát ani firmou, ale ani obchodovatelnou položkou. Slibme si to !»
À la tribune, l'ancien Premier ministre Peter Pithart enjoint les Tchèques à ne pas laisser leur pays être géré comme une entreprise ou être négociable comme une marchandise. Se succèdent ensuite plusieurs personnalités du monde politique et culturel. Le ministre de la Culture est applaudi par la foule. C'est lui qui est à l'origine de la dernière polémique en date, difficile à gérer par le président de la République et ses collaborateurs.
Ministre culture Daniel Herman požádá dva kolegy z vlády, kteří byli
une visite à Prague du Dalai Lama fin octobre, et ce ministre de la Culture qui le rencontre officiellement, alors que les autorités en font beaucoup depuis des mois pour séduire la Chine et ses investisseurs. Les réactions ne se sont pas fait attendre. La presse annonce d'abord que l'oncle du ministre de la Culture, survivant de la Shoah émigré au Canada, ne sera finalement pas décoré comme prévu par le président. Dans la foulée, ce même président publie un communiqué obséquieux soutenant l'intégrité territoriale de la Chine, Tibet compris évidemment, un communiqué signé aussi par les chefs du gouvernement et des deux chambres du Parlement. Des commentateurs pragois font désormais un lien entre les potentiels investissements de l'Empire du Milieu et les besoins de financer les prochaines campagnes électorales. Pour le chroniqueur politique Injik Shidlo, difficile de faire plus servile que les responsables politiques tchèques.
La Chine nous a démontré qu'elle pouvait se comporter avec nous comme on le méritait et comme on lui permettait de le faire. Donc on a pu apprendre par le porte-parole du chef de la diplomatie chinoise que nos excuses étaient acceptées et que des faits étaient attendus après ses promesses. Mais ça veut dire quoi? Que le ministre de la Culture devait être renvoyé du gouvernement ou bien peut-être inculpé ou même emprisonné? Au lieu de convoquer l'ambassadeur chinois pour une explication, tout ce que ce communiqué a eu pour effet, c'est de signaler à la Chine que nous étions prêts à faire tout ce qu'elle voulait, quand elle le voulait.
Déclaration outrancière, flirt avec l'extrême droite, refus de prononcer des excuses pourtant ordonnées par un juge, mais surtout des tropismes russes et chinois, beaucoup plus prononcés qu'au début de son mandat. Miloš Zeman ne fait jamais dans la demi-mesure et prend même un malin plaisir à déplaire à une certaine partie de la population tchèque. Le président est aidé en cela par les membres de son cabinet qui renforcent à coups de provocation son côté clivant. Leur stratégie de communication est simple, réduire le mouvement d'opposition à une partie de l'élite intellectuelle et culturelle de la capitale. Le café pragois, c'est l'expression censée désigner les critiques de ce chef de l'État qui se targue de représenter le vrai peuple, sondage à l'appui. Pas encore résigné, plusieurs acteurs et chanteurs viennent de lancer un appel pour protester contre Miloš Zeman, un président au pouvoir surtout protocolaire, mais à la capacité de nuisance plutôt illimitée.
Vážení spoluobčané, naše svobody jsou už delší dobu ohrožovány politickou mocí.
Dans cet appel relayé sur les réseaux sociaux, c'est surtout la crainte de voir le pays revivre des heures sombres qui est évoquée, la crainte d'un retour dans l'orbite de Moscou ou d'une nouvelle allégeance à Pékin. Le président est axé de goujaterie. Et les citoyens sont appelés à se rassembler de nouveau pour soutenir la démocratie le 17 novembre prochain, date anniversaire de la révolution de velours. Et les acteurs de conclure, ne restons pas muets et défendons-nous.
Vážení spoluobčané,
nemlčme a braňme se.
Miloš Zeman doit annoncer au début du printemps prochain s'il sera candidat à sa réélection en 2018. Le principal problème du mouvement d'opposition au président et qu'il n'y a actuellement aucun candidat potentiel en mesure de mobiliser assez d'électeurs pour prétendre le détrôner.
Et un autre populiste qui défraie souvent la chronique, c'est le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui mène une politique virulente contre les migrants. Après la construction d'un premier mur sur sa frontière, le pays érige actuellement une deuxième ligne de barbelés. Budapest refuse aussi de relocaliser les réfugiés, ce qui permettrait de répartir la charge du flux migratoire sur l'ensemble de l'Europe. Et les demandes d'asile sont massivement rejetées. Bonjour Florence Labruyère, vous êtes notre correspondante en Hongrie. On vient de dresser le tableau général, mais il y a une exception. Des étrangers peuvent obtenir un permis de résidence en Hongrie pour peu qu'ils aient beaucoup d'argent.
Eh bien, ces étrangers non européens ont un avantage. Ils sont très riches et c'est pour eux que le gouvernement Orban a mis en place des visas en or, car il suffit d'investir 300 000 euros dans des bons du trésor hongrois bloqués pendant 5 ans et en échange, on reçoit un permis de résidence qui permet de circuler dans tout l'espace Schengen. C'est donc particulièrement intéressant pour les non européens, car grâce à ce document délivré par la Hongrie, eh bien, ces étrangers voyagent librement en Europe sans avoir à demander de visa.
Et combien de personnes ont obtenu ce permis de résidence, Florence ?
Officiellement, près de 3000 depuis le lancement du programme il y a 3 ans, mais selon des médias indépendants, le chiffre réel serait plus élevé. Et si l'on inclut les familles de ces individus, eh bien ce serait 10 000 non-européens qui auraient accès à l'Union européenne grâce à la Hongrie.
Et ils sont originaires de quel pays ?
Majoritairement de Chine, mais aussi de Russie, d'Iran et du Moyen-Orient, notamment d'Arabie Saoudite. Alors ce système de visa pour riches existe ailleurs, hein, dans d'autres pays européens comme la France et le Portugal. Mais la particularité de la Hongrie est que cet argent est géré par un réseau de sociétés offshore mis en place par un ministre de Viktor Orban. Les sociétés offshore achètent les bons du Trésor à prix réduit et elles les revendent plus cher aux étrangers. Elles auraient fait un bénéfice de 200 millions d'euros.
Et finalement, est-ce que l'État, le pays, profite de ces rentrées d'argent ?
Ben, pas vraiment, parce que ces mystérieuses sociétés offshore appartiennent à des particuliers et on ne sait pas à qui. Alors selon le parti d'extrême droite Jobbik, il s'agit là d'une énorme affaire de corruption qui profiterait à Viktor Orban et à son clan. D'ailleurs, le parti d'extrême droite exerce un chantage sur la droite au pouvoir. Si le Premier ministre ne supprime pas ses visas en or, le Jobbik ne votera pas la prochaine modification de la Constitution. Or, Viktor Orban a absolument besoin des voix de l'extrême droite pour changer le texte. Il a donc cédé. En invoquant des raisons économiques, le gouvernement hongrois vient d'annoncer qu'il allait supprimer ses visas pour les riches. Et Bruxelles a toujours échoué à faire plier Viktor Orban dans le passé, mais l'extrême droite, elle, a réussi. Une extrême droite qui, plus que jamais, semble mener la danse en Hongrie.
Merci Florence Labruyère à Budapest. Un numéro vert pour les personnes âgées en perte d'autonomie. C'est l'initiative lancée par la région Toscane en Italie. Le programme Pronto Badante, littéralement une aide à domicile tout de suite, fonctionne très bien grâce à sa simplicité, comme nous l'explique Cécile Debarge.
Regione Toscana Pronto Badante, come posso aiutarla?
Quando la nonna tornerà a casa dall'ospedale, come ci
prenderemo? Comment s'occuper de sa grand-mère qui rentre de l'hôpital, des personnes âgées qui n'arrivent plus à être autonomes après s'être fait opérer? C'est pour répondre le plus efficacement possible à ces questions que la région Toscane a lancé son numéro vert Pronto Badante, comme l'explique Stefania Saccardi, en charge des questions de santé pour la région.
La gente qui non sa nemmeno dove trovarle le badante.
Les gens ne savent même pas comment bénéficier des aides à domicile, à qui s'adresser, comment trouver des personnes bien formées. Et puis ce service ne fournit pas seulement des informations sur les aides à domicile. On se déplace au domicile des personnes âgées pour voir si d'autres dispositifs ne pourraient pas être activés, comme par exemple une aide financière ou bien la présence de bénévoles, d'associations d'aide aux personnes âgées.
En Italie, les badante, ces fameuses aides à domicile, sont plus d'1,5 million, venues le plus souvent de l'Est de l'Europe. L'État propose également des services d'aide aux personnes âgées, mais ils sont souvent dispersés entre la région, la mairie et les associations privées. Un casse-tête administratif qui rebute souvent les usagers. Désormais, il suffit de passer un coup de téléphone et de répondre à quelques critères bien précis que détaille Stefania Saccardi.
Les seules conditions sont que la personne ait perdu son autonomie ou qu'elle soit très peu autonome et qu'elle vienne juste de sortir de l'hôpital.
Pronto Badante, c'est donc une plateforme d'information et d'orientation. C'est aussi un service qui permet de recevoir un peu d'argent pour tester une aide à domicile.
Le public garantit également un chèque de 300 euros, indépendamment des revenus des familles, pour permettre d'activer un contrat avec une aide à domicile, ce qui couvre environ 10 jours à l'essai pour que la famille se rende compte si c'est une solution qui peut fonctionner ou non.
Au cours des 6 premiers mois de l'expérience, qui ne concernait que la ville de Florence et les communes alentours, la ligne Pronto Badante a enregistré plus de 5700 appels pour délivrer au final 638 chèques de 300 euros.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe. Demain, dans l'émission, nous retrouverons Mathilde Villain pour le deuxième épisode de son journal de bord sur l'Aquarius, le navire humanitaire de l'association SOS Méditerranée qui recherche et sauve les migrants au large de l'Italie. À demain.